L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bienvenue et bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est BFM Business et c'est l'atelier numérique. Votre rendez-vous dédié à l'high-tech du samedi 16h-18h. J'espère que vous passez un bon moment avec nous et on est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe de l'atelier qui est là. Constance, Aurore, Lila, Nathalie depuis les US. Mesdames, bonjour.
Bonjour.
Enfin, mesdames, bonjour. Mesdemoiselles, parce que là, vraiment, il y a un peu de tout. En tout cas, on est ravis de vous retrouver et on va évidemment passer ces deux heures en votre compagnie. Tout à l'heure, Antoine Cyr pour le crash test. Bien entendu, Guillaume de Groisse nous rejoindra et puis Éric Lebourlou sera là aussi, vous le savez, rédacteur en chef de ZeroNet.com. Avec lui, on jettera un œil sur les gros titres d'actualité de cette semaine que vous avez pu lire sur 01. Au menu aussi de cet atelier, le Silicon Carnet tout à l'heure avec Nathalie, notre cyber gadget, notre focus startup aussi, et puis notre enquête de l'atelier. Lila, on va évoquer les robots qui débarquent enfin à la maison.
Enfin, R2-D2 dans la maison, imaginez un peu.
Voilà, ça va être cool. Bon, à quoi ils vont servir ces robots à la maison, on verra. Avec deux exemples français en plus, les amis de robots. La web stratégie, ce sera la vision de la pharmacie connectée tout à l'heure. Notre passion selon Sanet, on reviendra sur l'actualité avec, vous le savez, dans les salles, le film Jobs, hein, un biopic de Steve Jobs, le deuxième. Et à cette occasion, nous recevrons l'auteur d'un livre sur Steve Jobs, Daniel Ishbia, qui sera là, les auteurs de Steve Jobs, 4 vies. Et puis notre dossier de l'atelier US, notre World Tour, et bien évidemment, je le disais, le crash test d'Antoine tout à l'heure. Voilà, vous savez tout, soyez les bienvenus, c'est parti pour cet atelier. Et on commence par l'actu vue par toute l'équipe, et c'est Constance cette semaine qui ouvre le bal.
Bonjour François.
Bonjour Constance.
Alors, je vais commencer moi avec une news un peu atypique sur un lampadaire.
C'est bien les lampadaires.
Un lampadaire qui fait tout, qui a été développé par une équipe de chercheurs malaisiens. Donc il peut non seulement charger votre téléphone mobile, vous prévenir s'il y a une catastrophe naturelle qui est en train d'avoir lieu, mais aussi tuer les moustiques, ce qui avec l'épidémie de Zika en ce moment peut être assez intéressant. Alors les lampadaires qui s'appellent Eco Green Energy sont aussi adaptés aux zones rurales parce qu'ils ne dépendent pas du réseau électrique. Ils peuvent être alimentés uniquement par l'énergie solaire et éolienne.
C'est bien.
Et ils stockent l'énergie la journée pour continuer à fonctionner la nuit, ce qui peut aussi être pratique pour un lampadaire. Alors comment ça marche pour les moustiques? Les chercheurs ont doté le lampadaire d'un petit diffuseur qui répand du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui est aussi produit par le corps humain. Du coup, les moustiques croient qu'il y a un humain à piquer, vont vers le lampadaire et se font aspirer et broyer à l'intérieur de celui-ci.
Oh mon
Dieu, fini les moustiques. Et sinon, en cas d'inondation, le lampadaire peut détecter le niveau d'eau pour prévenir les autorités et avec une petite antenne aussi prévenir les habitants sur le dessus. Tout système est waterproof. Du coup, si jamais l'eau monte, c'est pas grave, ça marche encore. Voilà, le lampadaire qui fait tout.
C'est incroyable ça. Bon, il n'aime pas les moustiques, visiblement.
Ah ça, non, pas du tout. Je veux le même dans ma chambre. Ma nouvelle lampe de chevet.
Et oui, c'est vrai, ça peut être pratique. Mais il faut avoir du soleil dans votre chambre, Constance, autrement ça ne marche pas.
Mais je suis lumineuse,
oui,
François.
C'est vrai. C'est vrai, je n'osais pas le dire, mais vous êtes tellement lumineuse. Merci Constance. On va enchaîner avec Nathalie depuis l'atelier US.
Oui, et moi j'aimerais aussi vous parler d'une innovation qui est agréable au quotidien. Alors en fait, on parle beaucoup de réalité augmentée. Alors vous savez que ce soit en utilisant nos smartphones ou en utilisant des casques type Oculus, on veut rajouter des choses à nos réalités. Et ben moi aujourd'hui, je voulais vous parler de réalité diminuée. Et c'est intéressant en fait de diminuer la réalité.
Ça surprend comme
mais
ça,
oui,
mais bon.
Ne rigolez pas, je suis sûre qu'à la fin vous allez être acheteur. En fait, il s'agit de gommer ce qui est désagréable. Et en fait, l'innovation porte sur le son. Donc c'est une start-up américaine qui s'appelle Doppler Labs qui lance des oreillettes connectées. Alors elles sont toutes petites, hein, elles se mettent dans les oreilles, c'est pas un casque. Et en fait, elles permettent de filtrer les sons à l'aide d'une appli mobile. Et quand je dis filtrer les sons, c'est vraiment tous les sons. Donc vous avez le choix d'enlever ce que vous souhaitez. Donc en fait, c'est donc une start-up qui a fait parler d'elle l'année dernière en levant 17 millions de dollars. Ils ont fait une campagne Kickstarter pour produire les oreillettes. Et là, ça y est, ils sont en capacité de livrer leurs premières oreillettes aux contributeurs de Kickstarter et aussi aux participants du grand festival de musique Coachella. Alors, forcément, la musique, on imagine en effet pouvoir filtrer les sons, les réduire, ça peut être intéressant. Mais en fait, quand on pense au monde du travail, il y a aussi énormément d'usages qui peuvent être utilisés. Par exemple, éliminer les bruits de la rue dans un lieu de travail ou éliminer les sons d'un bébé qui pleure ou des personnes qui parlent fort dans un transport quand vous souhaitez travailler sereinement.
Je pense que dans la rédaction de l'atelier, ça peut servir. Constance chante parfois,
Constance.
Beaucoup. Donc ces oreillettes peuvent avoir peut-être une utilité.
Aurore serait soulagée là. C'est vrai.
Exactement. Mais en fait, donc c'est vous qui choisissez quel son vous voulez enlever. Voilà. Donc l'innovation est vraiment sur le fait de trier ces sons. Alors si vous n'avez pas participé à la campagne Kickstarter ou si vous n'avez pas prévu d'aller à Coachella, il vous reste plus qu'à vous mettre sur la liste d'attente du site. Alors ça s'appelle earplus.me. Alors ear, pas comme entendre, il y a un piège, c'est H-E-R-E plus.me. Et il faut compter environ $200 ou alors reste à convaincre votre boss pour que ce soit pris d'un point de vue RH.
Parfait, merci beaucoup Nathalie. Aurore.
Moi, je vais vous parler des géants du web qui luttent contre le terrorisme. Alors, étonnant. Mais je vais vous parler de Google plus particulièrement, qui lance un programme pilote au Royaume-Uni pour spammer, entre guillemets, les personnes recherchant des termes liés au terrorisme. C'est-à-dire que quand on tape sur Google « Join ISIS », donc je souhaiterais rejoindre Daesh, vous allez avoir des liens vers des sites antiterroristes, genre des liens vers des ONG, des publicités qui vont vous dire « Attention, ne faites pas ça
!» Et on vous explique pourquoi il ne faut pas le faire.
Des sites de prévention. Alors attention, ce n'est pas toute la page Google qui va se transformer en site de prévention, entre guillemets. Ce sont seulement les liens qui sont sponsorisés, ceux que vous voyez en tout début de page.
Parce qu'après, le moteur de recherche, lui, remonte les résultats plus utilisés.
Donc, pour l'instant, on ne sait pas quel est le but, au niveau de l'utilisation. On sait déjà qu'il y a eu 100 000 rapports, entre guillemets, de recherche inappropriée. Voilà. Et donc, ce n'est pas la première initiative dans le genre. Google avait déjà, en 2014, en retiré 14 millions de vidéos qui incluaient des éléments en rapport avec le terrorisme. Et c'est un gros, gros travail, puisque chaque minute, 300 heures de vidéos sont postées sur YouTube. Donc, imaginez la difficulté de filtrer chaque image pour savoir ce qui pourrait être
même
dangereux.
Même avec des algorithmes, des choses comme ça, c'est très compliqué. Et c'est vrai qu'en plus, il y a beaucoup de vidéos comme ça qui sont sur YouTube, qui sont postées par YouTube, sur YouTube, parce que c'est très facile, en fait, de le faire. Avec un smartphone, on pose sur YouTube en quelques minutes maintenant. Merci beaucoup, Constance, Lila. L'Aurore, pardon. J'ai dit Constance, alors que c'était Aurore qui parlait.
Je suis partout.
Honte à moi.
C'est un compliment.
Elle est tellement lumineuse que ça se propage.
Je suis dark.
Mais pas du tout. Pas du tout, Aurore. Lila.
Oui, après Google qui se propose d'éteindre le feu du radicalisme, moi je vais vous parler d'un drone qui prétend aider à éteindre les vrais feux. Enfin, des feux tout aussi...
Le drone pompier
grave. Tout à fait. Tout à fait, François. Après le drone livreur, on a eu le drone agent de maintenance. Dans les semaines qui vont arriver, vous allez voir, on va parler de drones agricoles à l'occasion du salon de l'agriculture. Oui. Bon, en attendant, on vous parle du drone pompier qui a été développé par des chercheurs coréens de l'université de Keist. Et en fait, le principe est assez simple. Ces drones sont équipés à la fois d'un système de scanning 2D. Ils sont également équipés d'une caméra thermique capable de résister à une chaleur de 1000 degrés environ. Et le principe, en fait, c'est d'envoyer ces drones en cas d'incendie, inspecter les incendies, voire de reconnaître, grâce à un système de reconnaissance d'image très puissant, de détecter l'origine du feu.
C'est un paramètre important pour les pompiers après.
Mais tout à fait,
bien sûr,
tout à fait, ce qui peut être crucial et qui pourrait sauver des vies. Donc pour l'instant, c'est en expérimentation en Corée. Mm-hmm. On pourrait espérer le voir arriver un jour chez nous, dans nos contrées, et notamment l'été.
Mm-hmm. On va avoir des drones partout bientôt, les amis.
C'est ça.
Enfin, alors faire attention parce qu'on risque de s'en prendre un parfois sur la tête. Constance.
Alors moi, je vais vous parler d'un problème que sûrement beaucoup d'entre vous ont eu. Si vous avez un téléphone mobile, c'est le démarchage téléphonique intempestif. Alors, je suppose que vous avez remarqué qu'il est souvent difficile de terminer poliment une conversation et que si on ne veut pas raccrocher de manière abrupte, Non, en fait, il y a une autre méthode, se servir d'une intelligence artificielle.
Moi, j'en ai une, c'est « je passe sous un tunnel, je vous entends plus, au revoir !»
Qui est encore plus efficace, remarque.
Ça, c'est
peut-être.
Pas mal, hein.
Sauf que si vous voulez vous amuser un petit peu avec le démarcheur, vous pouvez du coup le faire parler avec un robot. Alors, c'est l'inventeur
chouette.
De ce système, un Américain, Roger Anderson, a travaillé dans tout le secteur des télécoms, donc il connaît vraiment les questions habituelles qu'on pose. Oui. Il propose d'appeler un numéro de téléphone en parallèle, de le mettre du coup dans la conversation, et ensuite le robot voilà va parsemer la conversation de allô allô ah d'accord et si jamais il sent que le démarcheur a l'air un petit peu sceptique, il va faire quelques réponses un peu plus poussées. Il arrive à sentir quand la personne en face
se méfie et
rebutée. Alors par contre, le numéro, c'est un numéro américain, du coup la facture téléphonique risque d'être un petit peu salée.
Oui, c'est de la blague, coûte cher là.
Mais voilà, vous pouvez garder en plus un enregistrement après de votre démarcheur qui s'énerve contre le robot.
Oui, mais
ça n'a pas de prix.
Et en plus, s'il parle anglais, le robot, ça va être embêtant avec notre démarcheur français.
Il risque d'être un petit peu surpris.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'on pourrait imaginer demain enclencher ce robot automatiquement au lieu de raccrocher? Si je suppose qu'il s'agit d'un démarcheur, automatiquement je vais pouvoir déclencher ce fameux
truc,
bot.
Ouais. Ouais,
ça
ouais.
pourrait être chouette, ça.
Ça serait super, ça.
Ah ouais, ça serait pas mal. On appuie sur la touche 2, par exemple, et là, après, on écoute, et c'est le robot qui fait
la discussion. Après, on profite.
Ça pourrait être pas mal. Bon, c'est un peu pervers quand même ce truc, hein, moi je trouve, personnellement. Mais c'est rigolo, et c'est ça qui est bien. Et il est temps de retrouver notre rendez-vous depuis la Chine, avec notre ami Jean de Chambure, comme chaque samedi. Salut Jean !
Bonjour François !
Et oui, Jean qui, vous le savez, est à Shanghai et qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir chaque semaine pour sa petite carte postale high-tech, donc depuis la Chine. La Chine qui va fêter son nouvel an, Jean !
Oui François, c'est ce week-end que ça commence, pendant une semaine, hein, c'est la grande fête, la fête de Spring Festival, parce que ça marque aussi la fin de l'hiver, le début du printemps, cette grande fête du Nouvel An chinois. Alors c'est fait évidemment de beaucoup de déplacements, parce que normalement les Chinois voyagent pour aller retrouver leur famille, leurs parents, leurs grands-parents. Ils viennent avec bien sûr toute leur famille, quelques pétards pour fêter ça, parce que vous savez que les Chinois ont inventé la poudre. Nous on a fait des canons, mais eux ils ont fait ça d'abord avec ça d'abord des feux d'artifice pour fêter des moments joyeux, et puis aussi pour échanger ces fameuses enveloppes rouges, les hangbao, dans lesquelles il y a un petit peu d'argent. C'est un symbole de chance, c'est un symbole de réussite. Bien sûr, on a envie de partager, de donner un petit peu d'argent aussi à sa famille. C'est pour éloigner des mauvais esprits. Mais c'est vraiment très, très ancré hein, dans les usages. Par exemple, quand vous avez un nouveau travail, eh bien vous avez un nouveau travail, vous êtes jeune d'actif, vous allez donner un petit peu d'argent à votre famille, y compris à vos grands-parents. C'est quelque chose de très, très ancré en Chine. Et ça se développe aussi depuis pas mal de temps maintenant en Asie, en Thaïlande, en Birmanie ou au Cambodge. Alors, qu'est-ce qui se passe sur Internet, François? Vous avez dû suivre ça déjà depuis quelque temps. On en parle dans l'atelier numérique. Hein, c'est ces fameuses enveloppes virtuelles. Donc, en fait, ces petites enveloppes, elles vont s'échanger entre amis. Donc, c'est en gros plusieurs petites enveloppes qui circulent avec des sommes mystérieuses à l'intérieur. Et chacun donc va s'envoyer ces enveloppes, va se les échanger. Et pour jouer, et avec un peu de chance, pour avoir à l'intérieur, lorsque la personne va l'ouvrir, une énorme somme pourra être faire le bonheur de chacun. C'est marrant parce que c'est une façon à la fois de d'apprécier l'argent, mais aussi de ne pas prendre cela trop au sérieux, que finalement il y a une dimension ludique qui est très sympa. Alors derrière ça, si je vous en parle aussi, François, c'est que bien sûr il y a du business, hein, puisque c'est en fait ce jeu-là. C'est un peu une démonstration de force des deux grands géants de l'Internet chinois, Alibaba et Tencent, qui sortent à chaque fois en gros un petit peu l'artillerie lourde, comme les grands sites e-commerce américains sortent l'artillerie lourde au moment des Black Tuesday avant Noël. Donc l'année dernière, par exemple, Tencent avait imaginé un jeu assez amusant. Donc je vous avais dit qu'on va voir sa famille au moment du Nouvel An chinois. Généralement, ça se passe en trois temps. D'abord, on voit sa famille, ensuite on regarde la télévision et après on sort avec ses amis. Et donc évidemment, les programmes de télévision, vous pouvez l'imaginer, sont extrêmement sollicités et regardés par les Chinois. Et que fait donc Tencent, vous savez, le créateur du Facebook chinois qui s'appelle WeChat, eh bien, il a lancé une petite application l'an passé où vous secouez votre téléphone et au moment donc clé d'un programme chinois, vous allez pouvoir recevoir ces fameuses petites enveloppes qui allaient vous permettre en fait de dépenser un peu d'argent via des coupons. Cette année, c'est Alibaba qui reprend cette idée-là. Tencent est sur une autre idée avec des photos un petit peu floues. Vous cliquez dessus, il y a une enveloppe derrière et en fait, si vous voulez avoir la vraie photo, l'avoir en vrai, vous allez pouvoir donner un petit peu d'argent à un ami. Derrière donc ces idées assez rigolotes, c'est quand même 400 millions d'utilisateurs pour la solution de paiement Alipay, 200 millions pour WePay, donc la solution de WeChat, qui est arrivée il y a un peu plus de 10 ans et qui dépasse déjà PayPal, hein, qu'on connaît bien, qui avait 170 millions d'utilisateurs. Donc voilà, c'est une belle, aussi une belle opération de promotion marketing virale pour tous ces acteurs.
Très bien, merci beaucoup. Mais c'est vrai que bon, dès qu'on parle de la Chine, on s'adresse à des centaines de millions de gens et on a des chiffres incroyables. Merci beaucoup Jean, on se retrouve la semaine prochaine et on revient dans un instant pour la suite de cet atelier numérique avec le Silicon Carnet et les gadgetos bien sûr. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, ça sera notre sélection de cybergadgets. Et cette semaine, ce sera avec Constance qui nous a trouvé, écoutez bien, entre autres, un patch anti-ronflement. Et j'en vois dans l'assistance quand même qui se sent un petit peu visé. Donc, on va retrouver ça dans un instant avec Constance. Mais auparavant, notre Silicon Carnet, direction l'atelier US avec vous, Nathalie Doré depuis San Francisco. On va parler de blockchain cette semaine. C'est vrai que vous n'avez pas choisi la facilité, hein, Nathalie?
Oui, alors c'est un sujet qui est encore peu connu du grand public et je sais, il peut paraître complexe, alors on va essayer de le vulgariser au maximum, mais il a pourtant son importance hein, et on en parle de plus en plus ici aux États-Unis. Et d'ailleurs, le prestigieux magazine The Economist, en fin d'année dernière, titrait sa couverture sur justement la blockchain et comment cette technologie révolutionnaire pouvait changer le monde.
Bon, Nathalie, vous n'allez pas pouvoir y échapper. C'est quoi la blockchain?
Alors, c'est une technologie. Ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut retenir. Sur laquelle, alors, à l'origine, reposait le Bitcoin. Vous savez, cette monnaie numérique sulfureuse, puisqu'elle s'utilisait plutôt sur le dark web, ce web invisible qui abrite plutôt des transactions illégales. Eh bien, au-delà d'être utilisée pour le Bitcoin, la blockchain est une technologie qui permet donc de stocker des informations, de les transmettre, et elle est transparente, elle est sécurisée, et elle fonctionne sans organe central de contrôle. Donc en fait, voilà, elle s'autogère et ça, c'est important à retenir. Donc la blockchain a eu du mal à faire sa place dans les projets des entreprises car son association au Bitcoin sulfureux lui a apporté une mauvaise réputation. Et bien là, je dirais, on entre dans une deuxième ère où, après un certain scepticisme, et bien, les entreprises commencent à plancher sur l'utilisation de la blockchain.
Bon, alors justement, quelle utilisation pourra-t-on en faire ?
Eh bien, les champs d'utilisation sont vraiment immenses. Cette techno peut être utile à bien d'autres domaines que la monnaie. Alors, j'en ai sélectionné trois, hein, la santé, le transport et la finance.
La santé, mais on est loin du Bitcoin, là, hein, on est d'accord.
Oui, et pourtant, les données de santé véhiculées par la blockchain peuvent amener des usages intéressants. Et c'est d'ailleurs l'entreprise Philips qui s'est associée à Aterion, qui est un spécialiste de la collection de données utilisant la blockchain. Tous les deux, ils travaillent actuellement sur une solution très sécurisée qui permet de stocker les données de santé, donc nos données de santé sont sensibles, de manière donc décentralisée, tout en respectant la confidentialité des données du patient. Donc on arrive en fait sur des principes où c'est le patient qui ainsi contrôle sa donnée de santé, décide avec qui va la partager et quand, et du coup c'est un peu un contre-pied à les Apple Health Kit ou autres acteurs qui sont en train d'essayer de construire des coffres-forts de nos données de santé.
Nathalie, vous disiez que le deuxième usage concernait les transports. On est sur un domaine encore complètement différent là, hein ?
Oui, alors et la blockchain peut devenir l'acteur de notre mobilité. Alors en France, on en a entendu parler déjà un petit peu. C'est une start-up israélienne qui s'appelle Zooz, qui propose un service de covoiturage entièrement repensé, car décentralisé. Donc il n'y a pas d'acteur qui gère le service et détenu par la communauté en utilisant la blockchain donc pour gérer le service. Alors ce service open source permet aux conducteurs et aux passagers de se connecter en temps réel pour remplir les sièges vides qui resteraient dans les voitures. et du coup ils ne s'appuient pas sur un intermédiaire pour mettre en place la relation. Donc c'est Zouz qui rémunère ses conducteurs avec des jetons appelés Zouz, bon ils n'ont pas été très innovants, qui est une monnaie basée sur le Bitcoin et stockée sur la blockchain. Donc là on voit qu'en fait même Uber qui a disrupté le marché des taxis, bah là est disrupté lui-même puisqu'il n'y a plus d'acteurs qui fait l'intermédiation.
Alors vous disiez que le troisième usage concernait la finance, là on se rapproche en fait de l'utilisation d'origine de la blockchain.
Oui, on revient un peu plus sur la monnaie, sur les transactions financières. Alors la blockchain peut en effet être utilisée pour transformer les instruments financiers. On a d'ailleurs eu un signe fort là récemment, il y a 42 banques, donc là on parle vraiment d'institutions traditionnelles, sérieuses, etc., qui se sont unies dans le consortium R3 pour inventer les usages bancaires de demain. Donc il s'agit en fait de changer la manière de gérer les flux des transactions, certainement diminuer les coûts de ces transactions et du coup améliorer le service apporté aux clients final. Donc c'est intéressant car on allie ainsi les avantages de la blockchain, ça va être plus efficace, plus transparent, plus rapide, moins cher, avec l'utilisation d'acteurs qui peuvent amener la confiance. Car, et ça sera mon mot de conclusion, hein, selon moi les usages sont multiples, mais il va quand même y avoir une question de confiance qu'il va falloir adresser dans ces usages.
Ouais, surtout dès qu'on touche au paiement, etc. Hein. Merci beaucoup Nathalie. Nathalie Doré, merci. Donc pour le Silicon Carnet. On enchaîne avec notre Cyber Gadget. Cette semaine c'est avec vous Constance. Et on va commencer par ce fameux patch anti-ronflement.
Alors, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont rêvé de ce patch. Après, voilà, des nuits bercées par les ronflements de leur conjoint. Et ça y est, Silent Patch l'a fait.
Ne me regardez pas comme ça, hein. Il n'y a pas que les hommes qui ronflent,
non,
Constance.
Non, c'est vrai, je le sais bien. Et là, c'est un peu trop bien. Du coup, la marque propose de faire... la marque qui est basée à San Francisco propose de faire un petit patch qu'on colle de part et d'autre du nez. Avec en plus des stickers hypoallergéniques, donc qui sont bons pour la peau, qui peuvent s'adapter à la taille, à la forme du nez. Donc ça correspond aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Alors comment ça fonctionne? En fait, il y a un petit système interne qui va détecter la fréquence sonore de vos ronflements et qui va produire exactement la fréquence inverse pour annuler le bruit. Alors dès qu'on se trouve à plus de 20 cm du patch, il y a comme une bulle qui se crée et on n'entend plus rien. Donc la personne peut encore s'entendre elle-même, malheureusement. On peut toujours se réveiller avec nos propres ronflements.
Ça, à la limite, c'est son problème, on va dire.
Oui, c'est vrai, même si c'est assez embêtant.
C'est vrai.
Mais voilà, les personnes autour, en tout cas, ne seront plus dérangées. Alors ce qui est intéressant,
c'est génial,
le gadget propose en plus de déclencher une petite alarme si la respiration s'arrête et aussi de faire un suivi, par exemple, des différents moments de sommeil, si jamais il y a des apnées du sommeil, pour ensuite proposer un tracking avec le médecin et pouvoir lui donner toutes les informations. Alors, il faut croire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont concernées par ce problème, ou alors qui dorment avec des gens qui sont des ronfleurs, parce qu'il a été financé à plus de 600% sur Indiegogo. Donc ça a été un succès fou. Alors ce sera disponible à partir de novembre 2016, donc il faut encore attendre un petit peu, pour $27 pour ceux qui ont participé au financement.
C'est pas cher en plus.
Et $41 pour ceux qui n'ont pas participé. Et après, les envois se feront aussi à l'international. Donc
Tout le monde, on
peut être serein maintenant. À partir de novembre 2016, on aura des nuits tranquilles. Enfin, j'aurai des nuits tranquilles peut-être. Voilà.
Bah, moi aussi. Très bien. Alors on va enchaîner avec un autre gadget.
Un autre sujet qui n'a rien à voir. Donc je vais vous parler de Blind Tool, qui est une application en fait qui utilise la reconnaissance visuelle pour venir au secours des personnes malvoyantes. Alors c'est vrai que les nouvelles technologies avaient déjà permis de beaucoup améliorer leur quotidien. Par exemple, on connaissait Be My Eyes qui mettait en relation des personnes voyantes avec des personnes malvoyantes et qui proposait grâce à un système de partage d'écran à la personne de dire à l'autre ce qu'elle voyait dessus en temps réel. Alors là, maintenant, il y a eu des technologies qui ont permis aux personnes malvoyantes de se débrouiller toutes seules. Par exemple, TapTapSee, qui était une application, lorsqu'on prenait en photo un objet devant soi, la reconnaissance visuelle permettait de l'identifier. Mais là encore, ça obligeait à chaque fois à prendre une photo, ce qui était quand même assez embêtant, ça remplit la mémoire, ça prend du temps. Donc Blind Tool a résolu ce problème en proposant directement, en passant le téléphone devant l'objet, d'identifier celui-ci. Alors ensuite, il y a un petit système audio qui va dire à voix haute le nom de l'objet pour que la personne sache ce qu'elle a en face d'elle.
C'est génial.
Alors pour l'instant, c'est seulement en version bêta, donc ça fait encore quelques erreurs. C'est sur Google Play. Mais il faut savoir aussi que le niveau de sûreté est en fait, on peut le connaître grâce à un système de vibration. Si jamais il y a une vibration appuyée qui a lieu pendant que le nom de l'objet est dit, ça veut dire qu'on est quasiment sûr que c'est ça. Le système est sûr de lui. Et si au contraire c'est une petite vibration légère, la personne sait qu'il faudra peut-être vérifier avec une autre application.
C'est bien ça, parce qu'en fait, malgré tout, il y a des nuances.
Ça permet quand même de contrer aussi certaines erreurs.
Merci beaucoup. Merci Constance. On revient dans un instant pour la suite de cet atelier Focus Startup et notre enquête de l'atelier Les robots débarquent à la maison. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business. Dans un instant, notre enquête de l'atelier nous emmènera du côté des robots. Les robots débarquent dans nos maisons et en plus, ils sont français ces robots. C'est ça qui est intéressant. On en parlera avec l'un des concepteurs de robots du moment qui ont été présentés au CES. On en aura même deux concepteurs pour vous dire. Bah oui, on est comme ça, on est généreux. L'atelier numérique sur BFM Business. Ça sera dans une minute. Mais auparavant, c'est notre focus startup avec un réseau social de startup aujourd'hui, Aurore.
Un réseau social, oui, peut-être autre chose. On va en parler en tout cas avec Stéphanie Huismer-Cassin, qui est donc la fondatrice de Bilink. Stéphanie, bonjour.
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 Alors, avant de parler exactement de ce que c'est, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui a motivé la création de Bilink ?
Alors, je suis dirigeante de société, j'ai commencé assez jeune, vers 23 ans, et j'ai toujours été animée par la dimension sociale de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire embaucher des gens, et puis voilà, essayer d'œuvrer pour la société. Et à mes 30 ans, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que l'entrepreneuriat social au-delà de ce que je faisais, et ouvrons les murs de mes sociétés, et qu'est-ce que la responsabilité sociale du dirigeant, pour le coup. Et j'ai fait une rencontre avec une SDF un soir de Noël qui m'a fait dire, voilà, je ne passe plus une année calendaire sans faire quelque chose pour les autres. Mmh. Et dans mes entreprises, j'avais notamment une web agency toute petite qui commençait, et je me suis dit, peut-être qu'avec des outils du web, on peut œuvrer pour les autres, les toucher plus facilement. Avec des stagiaires, on a fouillé un peu les chiffres de l'économie, et on a sorti à l'époque les femmes chefs d'entreprise, les entrepreneurs, et on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire, en tout cas un vrai levier pour l'économie, en les accompagnant et en essayant d'être au plus près des projets au féminin. Et puis petit à petit, on a donc accompagné plus de 1000 projets en 3 ans, et le constat était l'année dernière que les hommes comme les femmes ont les mêmes problématiques. Aujourd'hui, on connaît bien l'économie, on sait comment trouver des fonds, en tout cas on sait s'orienter, etc. Sauf qu'à un moment donné, on a la problématique, c'est comment passer au stade du dessus et commercialiser l'outil et trouver très vite une rentabilité. C'est ce qu'on se constate pour plein de startups, c'est j'ai l'idée, j'ai le concept, mais what next? Comment aller plus vite et surtout continuer de vivre et de survivre?
Alors du coup, Bilink, c'est un réseau social, c'est une marketplace, c'est un incubateur.
Alors, Bilink, c'est une plateforme collaborative avec un but vraiment humaniste. C'est-à-dire, ça a été fondé par mes sociétés. On a créé des concours, etc. Et les fonds sont vraiment venus de mon groupe. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une plateforme qui nous donne plein d'outils. Donc, à la base, c'est un réseau social, puisque le but, c'est de mettre en lien les acteurs de la nouvelle économie. Depuis un an, c'est vraiment un réseau social pour les startups du monde entier, puisqu'aujourd'hui, l'économie est mondiale ou n'est pas. Et sur cette plateforme, on va trouver donc de l'entraide entre les startups, le fait de pouvoir les identifier, qu'elles s'agglomèrent ensemble pour que ça crée une grande vitrine mondiale et qu'elles puissent aller jusqu'à commercialiser en ligne. Pour commercialiser, nous, on demande rien en rémunération. Alors, pour que le modèle persiste, il faut qu'on puisse nous aider. Donc, les startups décident elles-mêmes si elles mettent 0% de la vente pour Bilink ou plus ou pas. Et le but à terme, c'est qu'on puisse vraiment développer l'activité de concours et d'ici 6 mois créer les premiers accélérateurs privés en France nommés Bilink.
Très bien. Eh bien, on vous souhaite bon vent pour la suite.
Merci
beaucoup.
Bilink, donc ce nouveau réseau social. On se retrouve tout à l'heure, Aurore, pour nos startups, évidemment, mais dans l'immédiat, c'est notre enquête de l'atelier sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business.
Et aujourd'hui, Lila, je le disais tout à l'heure en compagnie de nos invités, on va parler des robots. Les robots qui débarquent enfin, j'allais dire, dans nos maisons.
Dans nos maisons, mais oui, parce que souvenez-vous, alors le robot compagnon, on peut dire qu'il squatte notre imaginaire depuis quelques temps déjà, entre Nono, le petit robot qui accompagnait le fils d'Ulysse, Télémaque dans Ulysse 31, où on peut aussi penser à R2-D2, ces 3PO dont l'ancêtre remonte du film Metropolis de Fritz Lang. Et ben ça y est, figurez-vous, le robot arrive dans nos maisons. C'est du concret, on va en parler avec deux invités.
Deux spécialistes des robots français.
Tout à fait.
Tout à fait. Rodolphe Hasselwander, bonjour.
Bonjour.
Rodolphe, vous êtes CEO de Blue Frog Robotics et on a également le plaisir d'avoir en studio Pierre Lebeau. Bonjour.
Bonjour.
Alors Pierre Lebeau, vous êtes CEO de Kicker. Alors racontez-nous un peu, messieurs, quelle est votre vision, votre concept, quelle forme prend votre robot, compagnon, robot, pourrait-on dire, domestique. Pierre Lebeau, peut-être.
Oui, avec merci. Kicker. Donc l'idée derrière les robots et derrière Kicker, c'était il y a un aspect de simplification et on voulait simplifier nous la technologie qu'on a dans la maison. Et pourquoi une forme de robot? Le robot en fait, il permet quelque chose qui est évolutif par rapport à la technologie qu'on avait habituellement. C'est-à-dire qu'il est plus intelligent, mais il est aussi autonome. Et donc nous, on fait déplacer la télévision, le son, la caméra et de sécurité et les capteurs intéressants dans la maison. Et on les fait déplacer de pièce en pièce pour qu'on ait plus besoin d'équiper toutes les pièces, mais que justement la technologie se déplace.
Alors pour se représenter, il s'agit d'un robot de forme ovoïde mobile.
Voilà, exactement. C'est une sorte d'œuf blanc qui fait à peu près 40 cm de haut, qui roule et va se déplacer avec un projecteur, des enceintes, une caméra, plusieurs caméras et beaucoup de capteurs. Et il va être autonome dans la maison. Donc si on veut écouter de la musique dans la salle de bain, on l'appelle, on lui dit va dans la salle de bain, je vais écouter de la musique. Si je veux regarder un film dans ma chambre, je l'appelle, il vient. Et ensuite, il peut aller potentiellement endormir les enfants avec la voie lactée sur le plafond.
Il s'appelle Kicker.
Il s'appelle Kicker, exactement.
C'est ça. Alors, de l'autre côté, on a Buddy, créé par vous, Rodolphe Hasselwander. Quelle est la forme de ce robot? C'est un humanoïde, c'est ça?
Ouais, je ne sais pas si on peut placer un humanoïde, mais en tout cas, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, nous, on est vraiment parti dans la logique de... Enfin, moi, j'ai grandi avec R2-D2 et tout ça... Et ce genre de film, et depuis que je suis petit, en fait, moi, je veux faire des robots. Donc, on a vraiment la vision de, on veut faire des robots, on veut vivre avec des robots. Nous, on a designé Buddy vraiment dans une logique d'acceptabilité. Parce que, comme tu disais, les robots, on fantasme autour depuis très longtemps. Il y a du bon, du moins bon, les gens ont un peu peur. Et l'idée, c'est vraiment de faire des robots qui soient acceptables. Donc, on a vraiment misé énormément sur le design du robot, les mouvements du robot. C'est-à-dire que même on a essayé de simplifier au maximum avec le peu de mouvements qu'il a, avoir quelque chose qui soit très émotionnel. Avec le visage du robot, et l'idée c'était vraiment de créer de l'empathie et un lien émotionnel entre les gens et le robot pour que demain ils aient envie d'interagir avec lui et d'utiliser ses services qu'il va venir vous proposer, etc. Mais vraiment le maître mot c'était acceptabilité. C'est pour ça qu'on a un robot qui est donc pas humanoïde, mais là en effet il a quand même une tête avec un cou, il bouge, mais il a pas de jambes, il se déplace sur des roues. On va dire c'est un design entre le Wall-E et Eve, donc dans le même film, mais le côté très émotionnel de Wall-E, mais
oui,
dans un design.
Oui, parce qu'il a vraiment une bonne bouille. Enfin voilà.
C'est vraiment le but quand on voit le robot qu'on le met dans le salon. Enfin, tu nous as vu à Las Vegas. Ah, c'est hallucinant. On voit tous les gens qui viennent dessus et puis ils veulent faire des câlins, prendre Buddy avec eux parce que voilà, il y a cette attractivité. Il est cute quoi. C'est...
Et alors, qu'est-ce qu'il est capable de faire, Buddy? Est-ce qu'il va assister aux devoirs? Est-ce qu'il va m'assister dans ma relation à mon médecin, par exemple?
Buddy, c'est vraiment le compagnon robot mobile pour la famille, en fait. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment des services. On révolutionne pas la robotique en tant que telle, on essaie de révolutionner les usages de la robotique, pour, un petit peu comme disait Pierre tout à l'heure, c'est rendre facile les choses, en fait. Donc, par exemple, Buddy va pouvoir garder ta maison quand tu n'es pas là, donc patrouiller tout seul et t'envoyer une alerte s'il a détecté un cambrioleur ou une fuite d'eau. Et donc sur ton smartphone à distance, tu peux prendre le contrôle du robot, voir ce qui se passe chez toi, même si toi tu es au bureau, et contrôler le robot pour vérifier s'il y a un problème. Il va pouvoir contrôler ta domotique, par exemple, si tu es équipé, ou même être un hub pour récupérer toutes les informations du nombre d'objets connectés qu'on va avoir plus tard chez soi. Puis on a des applications en effet pour les enfants, ludo-éducative, donc il va jouer à cache-cache, mais il va aussi leur apprendre les mathématiques. Et puis bien sûr, pour permettre à des personnes âgées de rester plus longtemps chez elles. On a d'autres applications, le robot peut détecter une chute, leur rappeler de prendre leurs médicaments, ce genre de choses. Et surtout, c'est une plateforme ouverte. Donc l'idée, c'est que, comme un smartphone, en fait, c'est que demain, ton robot devienne le smartphone de demain, où tu vas télécharger de nouvelles applications pour l'améliorer, lui offrir de nouvelles capacités, etc.
Il a l'intelligence de quoi ? D'une tablette aujourd'hui, ce robot ?
Ouais, Buddy, il est basé sur une tablette Android, en fait. Donc, finalement, pourquoi on a fait ce choix-là aussi, c'était encore dans une logique d'acceptabilité, c'est que maintenant, tout le monde sait servir d'une tablette. Android, c'est assez répandu. Et donc, finalement, je sais me servir d'une tablette Android, a priori, je saurais me servir de mon robot. C'était un peu ça, le maître mot. Et du coup, on profite de tout l'écosystème, même des applications, du Google Play pour télécharger ces applications. C'est vraiment un smartphone, mais plus, quoi, de 2.0, on va dire, mobile, et doté d'un, un peu plus d'intelligence et de capacité.
Pierre Lebeau, est-ce que vous partagez également cette vision ? Est-ce que demain, Kicker, Buddy, pourrait être une espèce d'agrégateur de tous nos objets connectés, être une forme de majordome de la maison ?
Ah oui, en fait, je pense que ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est un peu comme si on était dans les années 80 et la période où on a plein d'ordinateurs personnels qui vont arriver et on a vu ce que ça a donné. Et aujourd'hui, on a un peu ça dans la robotique. Ça veut dire que y a énormément de projets qui vont se monter dans les années qui viennent. Certains vont durer, d'autres vont pas durer. On sait pas, on connaît pas le futur, donc on pourra pas savoir si même nous, tous les deux, on sera là dans 10 ans. Mais on essaye. Et ce qui est intéressant, c'est que la technologie, en fait, la robotique, c'est pas vraiment c'est une étape vers un changement de forme d'objet. La voiture va devenir robotique, mais ça restera une voiture. Et ce que nous on dit, c'est que en fait, la maison va pouvoir avoir son équipement plus intelligent, plus autonome. Ça, aujourd'hui, on l'appelle ça un robot parce que ça nous permet de vraiment comprendre cette capacité nouvelle et d'autonomie nouvelle, parce qu'aujourd'hui un ordinateur, une tablette, une télé, c'est assez passif. On a besoin de nous d'être très actifs. Et là, demain, avec ces nouveaux appareils, ces nouveaux capteurs, ces nouveaux usages, on va réussir à avoir des appareils qui vont être autonomes et qui vont prendre des décisions d'eux-mêmes. Et là, c'est vraiment très intéressant.
Quel type de décision ?
Ça va être, je pense que le champ des possibles, il va être gigantesque. Ça peut être de justement comprendre que, comme ce que disait Rodolphe, quelqu'un est tombé par terre et on va donner une alerte. De comprendre une situation, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal, comment est-ce que je vais alerter automatiquement ou pas les secours, une personne, comment est-ce que je vais pouvoir déterminer ce que les gens aiment faire, n'aiment pas faire, et leur proposer des choses, pas uniquement être passif. Donc c'est une vraie capacité de la machine à être plus interactif avec nous, et c'est vraiment une évolution de la technologie.
Quand on vous écoute tous les deux, on a vraiment l'impression que ces robots auront un rôle capital à jouer pour nos vieux jours. Pour qu'ils seront un petit peu ils vont surveiller un petit peu les comportements des seniors à la maison. Est-ce que ça veut dire que les premiers à bénéficier de ce genre de technologie, ce seront les seniors, à votre avis, ou pas?
Alors,
Moi, je bosse pas mal dans le secteur. Je suis président de Silver Valley, qui est un gros cluster sur les seniors. Et, en fait, je pense qu'il y a des vrais besoins. Enfin, on est persuadé qu'il y a des vrais besoins. En effet, le robot apporte beaucoup de choses pour une personne âgée, et c'est l'idée n'est pas de remplacer l'humain, mais de le suppléer. C'est-à-dire qu'on peut pas être 24 heures sur 24. Enfin, sauf si on vit avec une personne âgée, mais globalement, c'est assez rare. Mais de savoir que quand je rentre le soir chez moi, il y a un robot qui prend soin de ma grand-mère, qui va me dire s'il y a un souci. Ça, c'est très très important demain, et ça va permettre à ma grand-mère de rester chez elle, alors que sinon, elle irait peut-être dans une EHPAD ou un truc comme ça.
Oui, ça permettra en fait aux personnes âgées de rester plus longtemps.
Exactement.
Autonome, en fait.
Tout à fait, dans de meilleures conditions. Donc après, il y a le taux d'acceptabilité un peu plus compliqué, même si finalement on voit que des personnes âgées aiment finalement autant les robots que des jeunes. C'est pas trop une histoire d'âge, c'est plutôt clivant. Il y a des gens qui vont dire moi je suis contre les robots, un point c'est tout, mais on peut avoir 7 ou 77 ans et adorer les robots. Par contre, c'est un marché qui est un petit peu plus long à maturer, parce que il faut quand même prouver que il y a une vraie plus-value, il y a une vraie aide. C'est pour ça que nous, enfin, comme Kicker, hein, je pense qu'on vit le grand public au départ, et en essayant bien sûr que ça se diffuse vers des verticales qui sont les seniors, même des enfants autistes par exemple. Donc ce sont des trucs qui sont vraiment très pointus, mais où la robotique a vraiment une énorme plus-value, quoi.
Une question, messieurs, vous évoquiez le grand public, mais est-ce que à terme on pourrait imaginer que Buddy et à la fois Kicker soient l'espèce de maillon, fassent la passerelle entre ma maison et mon lieu de travail, savoir que je pourrais imaginer tout opérer indifféremment du lieu, effectuer des activités d'ordre professionnel.
Étant le linge à distance, quoi. En fait, c'est ça.
Pourquoi pas?
Ouais. En fait, c'est pas mal que... ça j'achète.
Pour Kicker, étant de linge, ça va être difficile parce qu'il a pas de bras, mais potentiellement, l'idée.
Il faudrait qu'il se mette le linge dessus pour que ça sèche.
Oui, exactement. Non, je pense que ce qui est intéressant dans la robotique globale ou dans l'évolution de la technologie, c'est que du coup, elle a cette autonomie et il va y avoir différentes formes. Il y aura des humanoïdes qui auront des capacités de faire des choses qui sont plutôt liées à l'humain, d'autres qui seront capables de faire des d'améliorer la communication, de comprendre des informations spécifiques, de se déplacer différemment, etc. Sur le sol, dans l'air, les drones, les voitures, voilà, on aura en fait toute une série de nouveaux appareils. Dans les années 80, on a eu la télé, le magnétoscope, et puis dans les années 2020-2030, ça sera des nouveaux appareils, mais qui seront beaucoup plus intelligents, et c'est là où cette robotique, ou ces avancées, ont ont un vrai intérêt, parce qu'ils vont pouvoir ouvrir un champ des possibles complètement nouveau.
Il faut y aller par étapes aussi, c'est-à-dire que l'un comme l'autre, finalement, on a des robots qui sont petits, qui, dans les usages, finalement, c'est relativement simple, quoi. Ça va améliorer les choses, mais la robotique on peut imaginer des choses hallucinantes. Mais par contre, c'est la première étape, en fait. C'est, voilà, commençons par déjà éduquer le marché, apprendre aux gens qu'il y a un intérêt à avoir des robots, ça peut être utile pour telle et telle raison. Et après, on va avoir des robots, en effet, de plus en plus performants. Nous, on a un robot humanoïde, par exemple, qui fait 1m60, qui a des bras, qui fait des choses, et on avait commencé au départ à tester le marché avec ça, et on s'est rendu compte que les gens, c'est beaucoup trop tôt pour eux, pour ce genre de robot. Donc voilà, on va y aller par étapes. Et puis demain, peut-être que Kicker et moi, enfin, et nous, on fera peut-être des robots humanoïdes ou peut-être des robots qui repassent de linge. Enfin voilà, comme tu dis, ce sera une multitude de robots et qui on partagera nos vies, quoi.
Merci à tous les deux.
Merci de nous avoir
suivis. Merci à vous.
Voilà.
Frogs Robotics et Kicker.
Et Kicker. Vous restez avec nous la suite de cet atelier dans un instant sur BFM Business. Merci d'être là.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Merci d'être là. Notre passion selon Sanet dans un instant. On va s'intéresser à Steve Jobs avec notre invité Daniel Ishbia qui est auteur d'une bio très intéressante concernant Steve Jobs. Steve Jobs, 4 vies. Ce sera dans quelques instants. Mais auparavant, notre web stratégie. On va s'intéresser maintenant à la vision de la pharmacie connectée avec Lila Megrawa et votre invité.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
François, cette semaine, on va s'intéresser à la transformation, l'évolution du métier du pharmacien. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés un spécialiste, Lucien Benatan. Bonjour.
Bonjour.
Alors Lucien Benatan, vous êtes président de Pharmacie Référence Group, qui est un groupement qui réunit environ 8% des pharmaciens français. Alors vous êtes lancé il y a peu dans un concept de pharmacie connectée, ma pharmacie référence, il me semble. Est-ce que vous pourriez en dessiner les contours pour nos auditeurs ?
Alors cette pharmacie connectée va dénoter par rapport aux pharmacies classiques. Déjà lorsque vous allez vous trouver face à cette pharmacie, vous allez vous rendre compte que les vitrines en carton, c'est fini, on n'en parle plus. Nous sommes déjà avec des écrans LED, voire des vitrines digitales, des écrans digitaux. Lorsque vous rentrez, pénétrez dans cette officine, vous allez trouver une borne d'accueil. Vous allez pouvoir vous identifier en présence d'une carte de fidélité ou pas d'ailleurs. Vous allez à ce moment-là indiquer aux pharmaciens et à l'équipe de la pharmacie pourquoi vous êtes rentré dans l'officine, pour rechercher une ordonnance, pour prendre une commande que vous avez passée à un produit manquant, voire prendre rendez-vous avec votre pharmacien ou rendez-vous avec une diététicienne. Ensuite, vous allez vous trouver confronté à un web bar. Alors, on n'est pas là pour vous servir le café ni le thé, mais on est quand même là devant un élément identifiant, marquant de cette enseigne. Vous allez pouvoir vous asseoir autour de ce web bar, disposer d'écrans tactiles. Ces écrans tactiles vous proposent tout un tas de solutions, voire des tests, et pourquoi pas aussi de prendre un nouveau rendez-vous, consulter des fiches santé que vous allez pouvoir vous envoyer. Ce web bar est équipé aussi aussi d'un écran, et lorsque il a la technologie RFID, dès lors que vous allez prendre un produit présent sur ce web bar, la fiche produit va apparaître avec pourquoi pas son prix. Et puis ma foi, au back office, nous avons travaillé aussi la présence de la technologie et de la digitalisation pour favoriser la relation entre le pharmacien et les patients.
Par quel type de service ? Est-ce que ça veut dire que le pharmacien va pouvoir avoir à disposition, par exemple, une partie du dossier médical du patient ?
Oui, alors, on va commencer déjà par développer un nouveau marché qui est la vente d'objets connectés. Deuxième nouveau marché que nous pensons important, c'est les solutions santé, parce que l'avenir appartient pas à la vente de produits, mais à la vente de produits avec des services comme consultation diététicienne, consultation avec des pharmaciens, mais aussi location d'objets connectés, puisque le pharmacien n'a pas vocation à vendre du plastique. Je crois qu'il y en a d'autres qui savent très bien le faire. Et cette solution santé complète va fournir un certain nombre de données santé. Et le pharmacien, me semble-t-il, en tous les cas, ça nous a semblé à nous évident, le pharmacien est l'acteur de santé porte ouverte, le plus proche, disponible, permettant d'interpréter ces données. Donc, ces données de santé seront collectées au niveau du dossier pharmaceutique du patient, permettant une meilleure prise en charge. Et donc finalement, la technologie se trouve à un carrefour qui va nous permettre de développer l'hyper-personnalisation de la relation entre le professionnel de santé et le patient.
Donc l'idée, c'est de faire de la pharmacie plus qu'un lieu de passage, mais un véritable espace de vie autour de la santé, du bien-être.
Oui, vous savez, une consultation de médecin, la moyenne en France, c'est 8 minutes. Donc on voit bien que le médecin n'a plus vraiment le temps de nous prendre en charge. En pharmacie, c'est un peu plus long grâce au tiers payant, on va dire. Donc on a 10 minutes. Mais je pense que aujourd'hui, avec le vieillissement de la population, avec le développement de la prise en charge en ambulatoire, donc on passe moins de temps à l'hôpital, le pharmacien va avoir un rôle primordial à jouer dans le système de santé. Le système de santé est en train d'évoluer. Il y a d'abord un développement de ce qu'on appelle la prévention, donc du parcours de santé. On a envie de rester en bonne santé le plus longtemps possible, et c'est normal. Et puis, il y a le développement du parcours de soins, où aujourd'hui, une prise en charge pluridisciplinaire est nécessaire. Médecin, pharmacien, infirmière, kiné, échange de données entre ces professionnels de santé, de manière à ce que, une fois que je sors de l'hôpital, je sois bien pris en charge par l'ensemble de ces professionnels. Et quelque part, le pharmacien va avoir un rôle de pierre angulaire. Il va être à la fois celui qui va orienter, celui qui va conseiller, celui qui va faire évoluer les prescriptions, et la technologie doit nous aider à mettre en place tout cela à masse salariale constante, parce que l'économie veut que ça fonctionne ainsi.
Est-ce que à partir de tout ce dispositif, le pharmacien pourrait revenir sur une dimension de prévention en accompagnant le patient de manière aussi proche? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt de prévention du côté du pharmacien qui reste un professionnel de santé avant d'arriver chez le médecin déjà malade?
Tout à fait, il y a deux rôles à développer pour le pharmacien grâce à cet avènement de la technologie. Clairement, on a le côté observance, mais c'est pas un mot observance, parce que l'observance, c'est très technique. Ce que je veux dire, moi, c'est l'adhésion au traitement. Bien comprendre mon traitement et pourquoi je dois bien le prendre. Ça, c'est un rôle pour le pharmacien de demain, essentiel. C'est presque un rôle d'épidémiologiste et de suivi. Bon. Et puis, il y a toute la notion de prévention. C'est clair, dans nos pharmacies, on voit des malades, mais on voit aussi des non-malades. On voit ce qu'on appelle les accompagnants. Et ces gens-là, si je puis dire, ont besoin qu'on les prenne en charge aussi et qu'on les aide à rester en bonne santé. Et prévenir, c'est aussi guérir, on le dit. Et donc, clairement, le pharmacien a un rôle essentiel à jouer dans ce domaine-là, surtout que, on le sait maintenant, avec l'évolution de la médecine prédictive est en train d'arriver. Et la médecine prédictive, ça veut dire que dès mon plus jeune âge, je vais savoir quels sont mes risques. Et moi, pharmacien, je devrais accompagner ces bien portants pour que, justement, on ne passe pas en chronique et qu'on reste en aigu. dans le cadre d'aigu, de celui qui est un peu pressé, qui veut son traitement tout de suite, etc., là encore, le pharmacien a un rôle essentiel. Et la technologie va nous permettre, grâce à la tenue de dossier, grâce à l'interprétation des données, va nous permettre de donner le bon produit à la bonne personne, au bon moment, et peut-être d'éviter des abus d'usage, voire des interactions inutiles.
Est-ce qu'il n'y a pas également une dimension de formation auprès des pharmaciens ? Allons plus loin, est-ce que le pharmacien ne va pas devoir développer une compétence de data scientist ?
Ah, parfaitement, là ça c'est clair. Aujourd'hui, nous, certes, le pharmacien a une formation pluridisciplinaire de par ses études, mais je pense que sur la notion de data, sur la notion d'analyse de ces data, il y a soit à la faculté de pharmacie des efforts à faire, mais il y a aussi des formations post-installation qui doivent être mises en place. Médecins et pharmaciens doivent travailler main dans la main dans ce domaine, c'est évident.
Lucien Benatan, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes président de Pharmacie Référence Group. Merci.
Merci Lila, on revient dans un instant et dans une minute à l'occasion de la sortie du film Jobs, on va revenir sur le parcours du fondateur d'Apple. À tout de suite.